À l'invitation du lycée Saint-Joseph d'Ustaritz, le 4 mai 2023, Fouad Hassoun était présent à Ustaritz au lycée Saint-Joseph pour témoigner devant les élèves. À 17 ans, au Liban, Fouad Hassoun, un jeune chrétien, est victime d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. Pour ce brillant étudiant en médecine qui se rêve ophtalmologue, le choc est terrible. Il est miraculé, mais il ne recouvrera jamais la vue. Dans son témoignage enregistré au lycée Saint-Joseph d'Ustaritz le 4 mai 2023, Fouad Hassoun raconte le chemin qu'il a mené de la haine à l'amour, le passage étroit du pardon qui mène au vrai bonheur. Fouad Hassoun.
Bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien?
Oui.
Super. Alors, je ne suis pas venu ce matin de Paris, mais hier soir, parce que je n'ai pas pris mon hélicoptère privé, n'est-ce pas? J'aurais pu. En tout cas, vous pouvez dire un gros bravo à Élise, parce qu'elle avait insisté pour que je vienne. Donc, je ne pouvais pas lui dire non, parce qu'elle dit, ça va être super pour nos élèves qui ont aussi fait une action pour le Liban en participant au bol de riz, etc. Je vous remercie d'avance pour ceux qui ont participé et pour ceux qui participeront. Parce que ce que je veux vous raconter, c'est une histoire un petit peu douloureuse. On vous parle en ce moment et vous entendez beaucoup parler de guerre, n'est-ce pas? L'Ukraine, les guerres qu'il y a en Moyen-Orient, en Israël, Palestine, en Afrique, partout dans le monde. On nous montre des images horribles, des exactions, des persécutions, des attentats, parfois aussi en Europe, en Amérique, de la violence partout. Et comme si c'était le lot ou la destinée même de l'homme, de l'être humain, c'est de vivre tout le temps en conflit. Peut-être que c'est un peu vrai. C'est depuis la Genèse, depuis Caïn et Abel, qu'il y a eu ce conflit de la jalousie, de l'envie, de la possession. Un frère qui était jaloux de son frère et qui voulait lui posséder ce qu'il avait, qui l'a tué. Et après, il s'est lavé un peu les mains. Suis-je responsable de mon frère? Répondait à la question dont Dieu a dit, mais où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et nous, on se pose. Je parle à vous, jeunes de première et terminale, puisque vous êtes des jeunes adultes, et vous savez de quoi on parle. Et cette guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui, elle a quoi comme but? Son but premier, c'est que l'un gagne sur l'autre. Mais on n'a jamais réussi à arrêter la guerre parce qu'on n'a jamais fini de gagner, ou plutôt jamais fini de perdre, parce que celui qui perd, il veut recommencer, il se reprépare, comme vous l'avez étudié dans les cours d'histoire, comme si c'est passé au siècle dernier, première guerre mondiale, après deuxième guerre mondiale, etc. Ben, et puis, on a fait quoi derrière? Qu'est-ce qu'on va fêter le 8 mai? L'armistice. Donc on fait ce qu'on appelle une trêve, qu'on appelle un peu les accords de paix. Donc c'est la paix que nous recherchons. Cette paix qui est tant malmenée, qui est tant menacée dans notre monde. Et moi, je ne suis pas venu vous parler de la guerre, je suis venu vous parler de la paix. Et comment la paix peut se construire dans la vie de chacun, dans la vie d'un lycée, d'un quartier, d'une ville, d'un pays et de notre monde. Je ne suis pas celui qui est le maître de la paix. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ, le prince de la paix, que nous fêtons à Noël, comme étant l'incarnation de Dieu sur terre, et nous fêtons à Pâques la victoire de la vie sur la mort pour les chrétiens qui sont là et comprennent de quoi je parle. C'est notre foi, nous croyons que Dieu, prince de la paix qui s'est incarné, qui est devenu homme, donc il a permis à l'homme de l'être aussi, à Dieu, ça veut dire de posséder aussi ce pouvoir de la paix, puisqu'il est prince de la paix, et ce pouvoir de la vie sur la mort. Nous croyons que la vie peut vaincre la mort, malgré la croix, malgré la crucifixion de Jésus. Nous croyons que 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant à jamais. Je suis vivant. Moi, Fouad Hassoun, qui suis devant vous, j'ai failli mourir. Un certain 21 janvier 1986, où j'étais chez moi, en train de préparer mes cours de biologie, j'étais étudiant en médecine, et j'entends du bruit dans la rue, je me jette à la fenêtre pour voir ce qui se passe, et plus rien. Je suis projeté en arrière, dans un souffle immense. J'ai cru que j'étais en train de mourir, parce que j'étais dans la mort imminente. Je me voyais passer dans un tunnel, et que je passais dans l'autre monde, un silence de mort énorme. Et j'ai crié, « Oh mon Dieu, oh Sainte Vierge, je ne veux pas mourir, je ne suis pas prêt à mourir. » Je suis par terre, et dans ce silence de la mort, j'entends mon cœur battre, et j'ai compris que je n'étais pas mort. On est venu me chercher, vu l'état dans lequel j'étais, on m'a posé dans une morgue avec les morts. Un de mes cousins, qui me cherchait partout, est venu là, il a vu qu'en dessous du drap qu'ils avaient posé sur moi, ça bougeait et il crie. Je l'entends comme si c'était maintenant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tout le monde court, on m'amène dans la salle d'opération. Mes parents sont arrivés avec quelques chirurgiens et on a essayé de réparer ce qu'on pouvait réparer. Le 22 janvier, le lendemain, j'étais dans ma chambre d'hôpital, sur mon lit, entouré des miens, de ma famille, de mes amis, de mes proches, de mes camarades, entouré par des gens qui pleuraient, parce qu'ils voyaient l'état dans lequel j'étais, un état pitoyable. J'entendais, moi qui avais les yeux bandés, à ce moment-là, j'entendais dans leur silence des mots terribles, comme s'ils disaient « il aurait mieux fallu qu'il meure que d'être dans cet état-là ». Mes parents avaient amené une photo au chirurgien qui avait refait mon visage pour voir à quoi je ressemblais. On ne voyait plus qui j'étais. Et on me lisait les quotidiens du jour, du 22 janvier, qui titrait par une manchette, l'avenir fauché avec ma photo en dessous. La jeunesse perdue, etc. Comme j'étais d'une famille assez connue, beaucoup de journalistes sont venus, pris des photos, et puis ils voulaient haranguer la foule, les gens, ouais, les terroristes, les machins, parce que j'étais victime d'un attentat terroriste à la voiture piégée. 300 kilos de TNT, d'explosifs très puissants avec de l'exogène, ce qui détruirait votre lycée 10 fois plus. Mais j'étais là et je leur disais, je suis vivant. Je suis vivant. Moi, l'enfant de 17 ans, jeune, venait de comprendre le sens de la vie, le sens de sa vie. Moi qui avais grandi dans un pays qui était en pleine guerre. Je suis Libanais d'origine. Je vivais dans un pays qui était en guerre civile. La guerre civile, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus bête, de plus méchant qui peut arriver à un peuple. Des voisins ou des amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui. On s'entretuait bêtement. On envoyait des bombes sur nos voisins en disant « Mon Dieu, pourvu que ça ne tombe pas sur eux. » Une guerre civile dans laquelle j'ai été spectateur et acteur. Il y a 12 ans, j'ai commencé à porter des armes pour aller soi-disant défendre mes quartiers, défendre ma famille, survivre. Parce que si je ne le faisais pas, j'allais mourir et on allait tuer ma famille, etc. Toutes les bonnes, entre guillemets, les mauvaises raisons pour faire la guerre. Et j'ai grandi au milieu des fracas des bombes, au son des canons et des mitraillettes, mais j'ai grandi trop vite. J'avais au bout du fusil que j'avais entre les mains la vie ou la mort de quelqu'un. J'avais, en lançant des bombes de mortier, à l'autre côté du quartier, la vie ou la mort de ceux qui étaient là-bas. Quand tu as 14 ans ou 15 ans et tu as ça dans ta tête, tu n'es plus un homme, tu ne sais plus qui tu es et tu te dis pourvu que ça finisse, pourvu que ça se termine. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait tout cela? On nous a mis les films, les images de la guerre en Ukraine avec les Russes. Et les premiers jours, c'était terrible. On avait tous peur. C'était un peu plus d'un an. Et on a cru qu'il allait y avoir la guerre nucléaire, qu'on allait être tous décimés. Ce jour-là, j'étais assez hébété, un peu inquiet, soucieux, et ma petite dernière, qui avait 8 ans, me dit « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste comme ça ?» Et je lui explique, je lui raconte ce qui se passe. Et elle me dit « Une guerre nucléaire, c'est quoi, papa ?» Je dis « Ils peuvent envoyer des bombes, et on disparaît tous, on n'est plus là. » Et l'homme est si bête qu'il peut y arriver, il peut le faire. Ça peut arriver. Et voilà qu'elle me répond, du haut de ses 8 ans, avec l'innocence de l'enfant. Oula, papa, il faut que je te laisse. Je dois terminer ma série de schtroumpfs avant que la bombe nucléaire arrive. C'est une leçon pour moi. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas peur. Ce n'est pas qu'elle relativisait la mort ou pas, ou elle ne comprenait pas, c'est qu'elle avait quelque chose d'essentiel à faire, qui était beaucoup plus amusant, beaucoup plus joyeux, et beaucoup plus important pour elle, et beaucoup moins nocif et agressif. Et si nous nous mettons à faire ce que nous avons à faire, aujourd'hui, de beau, de simple, de pur, avant de répondre à une agression, à une incompréhension, à un prof qui nous a mal noté, à un camarade qui nous a bousculé dans l'escalier. Si on était capable d'être juste gentil, mais pas bête, hein, pas juste trop bon pour ne pas être trop, hein, mais juste sourire à celui qui me comprend mal. Ne pas dire « Ah, j'ai la haine !» parce que ma sœur ne m'a pas prêté sa veste pour sortir hier soir. Ou, ah, je les déteste mes parents, parce qu'ils m'ont interdit de sortir le week-end dernier. Combien de fois on sort des mots d'oiseaux comme ça, pour rien? Pour un rien. Si on se rend compte que des mots qu'on dit, ah, j'ai la haine, je vais le tuer, je le déteste, etc. Pourquoi? Pour rien. Pour des bêtises, pour des petites choses. Me voilà, comme je vous ai dit, vivant et que je comprenais le sens de la vie, moi qui étais l'enfant de la guerre, que j'ai vécu au milieu d'une, je dirais, foule de bêtes sauvages, où j'ai appris que la haine. On comptait les morts comme on compte les points dans les matchs de rugby. Ici, on ne parle pas football, n'est-ce pas? Tiens, aujourd'hui, il y en a eu 53 de l'autre côté, 40 chez nous, on a gagné. 35 chez nous, 14 chez eux, on a perdu. On comptait les morts comme on compte les points dans des tournois de sport. La vie venait de prendre son sens. Le jour où j'ai compris que ceux qui ont posé cette bombe Il ne voulait pas casser les pieds, rendre aveugle ou paralysé. Il voulait tuer. Et le fait d'être là, vivant, c'était une victoire déjà pour moi. Et j'ai dit, j'ai envie de vivre. Et les 6 semaines que j'ai passées à l'hôpital étaient les plus belles de ma vie. Mes copains venaient tous les jours en chanter, en jouer, en danser, en rigoler, en se raconter des blagues. Même un jour, j'ai fait le mur pour aller à l'anniversaire d'une de nos copines. Et on s'est fait choper au retour par le gardien de l'hôpital. C'était terrible. Je voyais que la vie avait un autre sens, un autre goût. J'avais une boulimie de cette nouvelle vie que je venais de vivre. Moi qui avais quitté mon village à l'âge de 9 ans parce que des amis, des voisins d'hier sont venus nous massacrer lors de la messe du dimanche. Ils ont encerclé l'église, ils ont tiré dans le tas, ont tué mon grand-père et beaucoup de gens avec lui. Des dizaines de morts et de blessés. J'avais 9 ans et j'ai quitté mon village que je n'ai plus jamais revu. J'ai perdu beaucoup de camarades. Un oncle était assassiné, un cousin enlevé. Et là, je me dis, mais je suis vivant. Et il faut que je continue à vivre pleinement. N'ayant pas trouvé une solution pour mes yeux, mes parents m'ont envoyé en Suisse pour me faire opérer. Car un chirurgien de renommée internationale avait dit, moi je peux le guérir, je peux le soigner. Donc j'étais obligé de quitter Beyrouth seul. Mes parents devaient rester avec mes 2 frères cadets. Et j'étais a priori accueilli par une famille d'amis. J'arrive dans un pays où je ne connaissais personne, ou plutôt personne ne me connaissait. Mais j'avais cet espoir que j'allais être opéré et guérir. Mais l'histoire s'est faite autrement. L'histoire s'est écrite autrement. Le lendemain de l'opération, la première qui devait précéder une dizaine, je suis dans le cabinet du chirurgien avec ses assistants. Plus d'une heure d'auscultation. Et je ne voyais toujours rien. Et le verdict tombe. Le chirurgien m'annonce, avec son accent suisse-allemandique, très froidement, « Monsieur Hassoun, vous êtes devenu aveugle. » Je dis « Pardon ?»« Oui, monsieur Hassoun, vous êtes devenu aveugle. » Et il dit à l'infirmière qui était là, « Amenez-le dans sa chambre, je passerai le voir. » La voilà qui m'amène dans ma petite chambre. Je suis seul. Je lui demande d'être seul. Elle s'exécute. Je suis là. Je viens de me rendre compte qu'une nouvelle bombe venait de m'exploser à la figure. Aveugle. Ce mot n'a jamais été prononcé devant moi. Et pourtant, j'en ai vu des ophtalmos. On me disait toujours, c'est des blessures qu'on peut soigner. Tu ne vois pas aujourd'hui, mais demain tu reverras. On n'a jamais prononcé le mot aveugle. Mais c'est quoi aveugle? Et pourquoi moi? Et là, tout le film de la guerre défilait devant mes yeux fermés. L'assassinat de mon grand-père dans l'église. Mon oncle tué devant chez lui. Mon cousin enlevé, mes camarades fauchés par une bombe. Et tout ça, et pourquoi? Et pourquoi moi? Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, il permet-il tout cela? Pourquoi Dieu, réponds-moi? Je criais très fort. Dieu, réponds-moi! Pourquoi? Et cela nous arrive souvent quand il y a un malheur dans notre famille, quand il y a un malheur qui nous arrive. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Pourquoi moi? J'étais là en train d'étudier mes cours de biologie. Je n'étais pas sur les barricades. Je n'étais pas en train de faire la guerre. Je suis une victime innocente. Tu ne peux pas Dieu, tu ne peux pas me laisser dans cet état. Réponds-moi. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un cauchemar. Il faut que je me réveille. J'étais vraiment dans un état second. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'hurlais. On venait me voir. Je refusais les médicaments qu'ils voulaient me donner. Je me calmais pour un instant. Et je reprenais de plus belle ma colère, mon incompréhension. Pourquoi ? Toutes les idées noires me sont passées par la tête. Et heureusement que les fenêtres de ma chambre étaient barricadées. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Pourquoi vivre en aveugle ? À quoi sert cette vie maintenant ? Et je criais. Moi, qui étais devenu aveugle, je m'étais rendu compte que le bon Dieu était sourd. Oh ! Répondez-moi ! Rien. Silence total. Et j'ai passé toute la nuit à crier, à pleurer, à tout casser dans ma chambre. Et au bout de cette nuit blanche, qui était la plus noire de ma vie, j'étais à genoux, la tête entre les mains, en train de pleurer, dit « Mais Dieu, s'il te plaît, guéris-moi » Comment de ta l'heure, quand je vais avoir maman au téléphone, je vais lui dire quoi ? Allô ? Oui, maman, je suis aveugle. Qu'est-ce que je vais dire à mon père ? Tu m'as fait venir à Genève pour rien. Mais aveugle, ça veut dire quoi ? S'il te plaît. S'il te plaît, guéris-moi. Tu peux, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu peux me guérir. Toujours rien. Et j'ai insisté, et puis là, comme une force, une voix intérieure, me pousse, je me lève, je range ma chambre, je fais ma valise, et je suis dans le couloir. Il devait être vers 5h30 du matin, tout le monde était paniqué, et il court vers moi, il me dit, mais où vas-tu ? Tu vas faire quoi ? Il dit, je vais faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais apprendre. Ils appellent la famille des amis des parents qui courent vers l'hôpital. On négocie, je sors quelques temps après pour aller dans un centre de rééducation où j'ai appris à lire, écrire en braille, marcher tout seul dans la rue, m'habiller seul, manger seul, à faire ma rééducation. Et j'ai fait le programme de l'année en 3 mois. Je venais d'avoir 18 ans, donc j'étais dans un centre où il y avait des adultes. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai des gens qui venaient de perdre la vue, soit par maladie, soit par accident, etc. Et j'étais là, au milieu de grandes personnes d'une culture différente, d'un monde différent. Mais j'apprenais vite et vite. Pendant ces 3 mois, j'avais repéré à Paris une école qui acceptait des aveugles. C'est une école qui faisait une prépa en maths appliquées. J'appelle mes parents, j'explique ça. Papa, il est paniqué, il prend l'avion, il vient à Genève, on discute. J'arrive à le convaincre, il me dit « Maintenant, il faut que tu puisses convaincre ta maman. » Je dis « Papa, je ne veux plus rentrer en Liban. » Il me dit « Si, si, tu rentres. » Donc, je suis rentré pour l'été. Je passe l'été là-bas. Je n'ai pas réussi à convaincre maman, mais je suis parti quand même. J'arrive à Paris. La ville monte, la ville lumière. La ville de mes rêves. Pour moi, le jeune Libanais, enfant de la guerre, les images que j'avais dans ma chambre, les photos, c'était Paris. Le Pont Neuf, Pont Alexandre, la Tour Eiffel, les grands boulevards, c'était magnifique. Pour moi, Paris, j'arrive à Paris pour faire le Paris by night toute la journée, les yeux bandés, vous imaginez. Je me perdais, je me retrouvais. C'était galère. Je travaillais sur cette prépa où il y avait quelques Libanais aussi, qui avaient quitté leur pays pour venir suivre leurs études. J'étais le seul aveugle qui avait un ordinateur, à l'époque en braille, qui pesait 15 kilos. Mais bon, je travaillais dur, jour et nuit. Je voulais réussir, je voulais montrer à tout le monde que le fouad n'est pas vraiment aveugle. Et je faisais tout ce qu'un aveugle ne peut pas faire. J'ai conduit une voiture, j'ai sauté en parachute, j'ai piloté un avion. J'ai fait plein de choses qu'un aveugle ne peut pas faire. En fait, ce jour-là, à l'hôpital, quand je me suis levé, j'ai dit que j'accepte. En fait, j'ai accepté d'accepter. Je ne l'avais pas vraiment accueilli, ce truc. Mais j'étais content d'être à Paris, je sortais beaucoup aussi, j'allais voir des concerts, j'avais plein d'amis, et c'était terrible, c'était super. Et tout le monde disait, Fouad, c'est un héros, c'est un garçon superbe, il a dompté son handicap, il est majeur de sa promo, c'est génial. Mais ce Fouad-là, joyeux, de l'extérieur, était triste, mais profondément triste de l'intérieur. Et je recherchais. Je cherchais la cause de mon malheur, de ma tristesse. Je cherchais partout. Je ne trouvais pas. Je fais des retraites, des accompagnements, rien. Rien n'y faisait. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être la solitude. Alors j'ai demandé à ce que mon frère cadet puisse me rejoindre en France et qu'il puisse venir continuer ses études. Je venais de terminer ma deuxième année de prépa. J'intègre une école à Lyon. Me voilà avec mon frère qui est arrivé. Et j'étais content. Cela n'a pas duré longtemps. Et ma tristesse est revenue. Elle était là, tapie au fond de mon cœur, lourde. Mais je la cachais. Je la cachais aux autres. Jusqu'au jour où je regardais avec mon frère une émission à la télé où on parlait des voitures piégées à Beyrouth. Forcément, ça nous intéressait. Et voilà. La surprise. Le présentateur annonce que l'homme qui avait posé la bombe 104 route de Damas venait d'être arrêté et conduit au tribunal pour être jugé. 104 route de Damas. C'est mon adresse. Et le sang qui a fait un tour en moi. Je tremblais, je commençais à transpirer, j'étais comme une bête sauvage. Si je pouvais passer par la télé, aller lui arracher les yeux, lui crever le cœur, le tuer, me venger, assouvir ma haine. Je me suis dit, voilà pourquoi j'étais si triste. Il y avait cette haine en moi. Il fallait que je puisse l'assouvir. Je tremblais. Si je peux me libérer de cette haine, je retrouve le goût de la vie, la joie vraie, véritable, le bonheur. Là, je tombe à genoux, en larmes, dis, mon Dieu, pardonnez-moi. Comment ai-je pu vivre ces années où j'ai reçu tant de grâces, tant de choses m'ont réussi, et voilà que je suis avec cette haine qui est là. Non, libère-moi de cette haine. S'il te plaît, libère-moi de cette haine. La réponse n'a pas tardé à venir et là je vois s'imprimer devant mes yeux une phrase de la prière que je priais plusieurs fois par jour, que Jésus avait appris à ses disciples, la prière du Notre Père. Une phrase, pardonne-nous Seigneur nos offenses. C'est quoi la suite? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dis mais non, ce n'est pas possible. Comment veux-tu que je pardonne à ces types? J'ai tout de suite compris. Comment moi je vais pardonner? Je suis incapable de cela. Je ne suis pas prêt. Je ne veux pas. Là, je demande la justice. Cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. Cet homme doit mourir. Je savais, au fond de moi, que si j'allais au Liban, on me donnait un pistolet, je lui mets une balle dans la tête et c'est terminé. Cet homme a tué des dizaines de personnes innocentes, des centaines d'handicapés, non. Cet homme doit payer, il ne doit pas vivre. Pardonne. Mais non, je ne peux pas, et qui suis-je moi? Je ne suis que l'enfant de la guerre, moi je n'ai connu que la guerre. Je n'ai connu que la mort, que la haine. Je ne peux pas, et je ne veux pas. Et là, je vois Jésus sur la croix qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai revu Saint Jean-Paul II, il était pape à l'époque, j'avais vu de mes yeux, vu quand il est allé en prison, là où il y avait son assassin, Ali Aksa, qui lui avait pardonné, qui l'a pris dans ses bras. À l'époque, j'ai dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Père, il est devenu fou !» Puis tiens, c'est un pape. Moi, je suis qui? Non. Et là, poussé par un élan extraordinaire, je prends le téléphone, j'appelle Le prêtre qui m'accompagnait dit « Père, je dois vous voir. C'est urgent, c'est une question de vie ou de mort. » Et me voilà devant lui le jour même pour faire une confession générale où j'ai tout dit. Tout ce que j'avais fait du mal depuis l'âge de raison. Tout le mal que j'ai subi. Tout ce que j'avais sur le cœur. Et cet appel au pardon pour me libérer de la haine. Et il me dit, mon ami, ton affaire est grande. Il n'y a que Marie qui peut t'aider. Et me voilà dans un sanctuaire marial, Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, où j'ai prié pendant une semaine pour pouvoir recevoir la grâce de pardonner. Le cinquième jour, à genoux devant la statue de la Vierge, je sens au fond de moi que je suis capable. Que ce pardon s'ouvre pour moi. Parce que j'avais dit dans ma prière, « Ô Marie, à vous, votre fils ne refuse rien. S'il vous plaît, demandez-lui pour moi cette grâce de pardonner. » Et là, j'ai senti mon cœur vraiment s'ouvrir. Je descends de la colline, je le dis au prêtre qui prêchait la retraite. Il ne me prend pas le bras, il me met devant les retraitants et la communauté dans laquelle j'étais. Il dit, vas-y, donne ton témoignage, dis ce que tu as reçu là-haut. Et j'ai fait mon premier témoignage. Et me voilà aujourd'hui à Ustaritz pour continuer, c'était il y a 36 ans. Et ça continue. Et ce témoignage m'a amené un jour dans une émission de télévision au Liban, 10 ans après, où j'avais dit que j'ai pardonné, j'avais écrit dans un article que ce pardon est accompli et que je peux maintenant annoncer que je ne veux plus du mal à cet homme. Et dans cette émission où j'ai témoigné sur le pardon, c'était une émission qui était faite pour la réconciliation après-guerre au Liban, je fais mon témoignage. Il y avait des anciens chefs de guerre, des évêques, des imams, de toutes les confessions, de toutes les religions. Puis les gens étaient contents. Puis le présentateur revient vers moi et il me dit « Fouad, est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme ?» Et me voilà qui répond du tac au tac, sans vraiment réfléchir. « Si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais et je lui dirais que je l'aime. » Je me lèverai, je le prendrai dans mes bras et je lui dirai que je l'aime. J'ai cru que j'étais devenu fou. L'émission se termine, je cours chez ma grand-mère qui avait perdu son mari à l'église, assassiné. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins qui m'attendaient. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas rentré au Liban. J'ai reçu un accueil hyper froid. Des reproches. Pour qui tu te prends ? Comment as-tu pu prononcer des telles phrases à la télé devant des millions de téléspectateurs? Pour qui tu te prends? Et un de mes oncles qui me dit « J'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. » Et là, je lui réponds « Mon oncle, ce n'est pas seulement que je le pense, mais j'ai envie de le vivre. » J'ai compris que cette phrase avait une dimension autre. Je n'avais pas mesuré ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur de ce que je venais de dire, mais je savais que c'était immense, que je pouvais gagner beaucoup en y entrant dans cette dimension-là. Quelques jours après, je rentre à Paris, où j'étais dans une grosse entreprise, un grand cabinet de conseil, où j'avais un gros poste, je travaillais comme un dingue, je gagnais un fric monstre, et je voulais faire une carrière d'enfer. Je vois le président, je dis, écoute, je ne veux plus être dingue, ni monstre, ni aller en enfer. Si tu veux faire quoi? Je dis, je veux maintenant mettre mes compétences au service des personnes handicapées. Je veux faire des outils technologiques pour aider les aveugles, les sourds, les hémopathes, etc. Toutes les personnes qui ont besoin d'une aide technique pour faciliter leur vie, pour leur ouvrir de nouveaux horizons. Je travaillais dur, ça marchait bien, on avait un succès fou. J'ai créé plusieurs entreprises, avec l'aide aussi du groupe dans lequel j'étais. Et j'avais ce succès qui m'apaisait beaucoup, mais je voyais aussi qu'il me manquait quelque chose. Je comprenais que je pouvais aimer les autres, etc., mais qu'il y avait quelque chose qui manquait profondément, c'est que je ne m'aimais pas moi-même. Parce qu'il y a, dans une retraite, j'ai reçu cette phrase de « Aime ton prochain ». La suite, vous la connaissez ?« Aime ton prochain comme ?» Voilà, comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes, Fouad, comme tu es devenu aveugle ? Non. En fait, je le domptais, cet aveugle, mais je ne l'aimais pas. J'étais hyper exigeant, forcément avec moi-même et avec les autres. C'était dur. J'étais inaccessible. Je ne croyais pas à l'amour, vraiment. Comment une femme peut aimer un aveugle ? Comment un aveugle peut devenir un père de famille ? J'étais fermé. Beaucoup de filles sont cassées les dents sur les portes de mon cœur. Et ce jour-là, quand j'ai compris que je devais m'aimer, que je devais me regarder différemment, mon cœur s'est dilaté. Et cet amour que je pouvais donner aux autres, je pouvais aussi le donner à moi-même. Et quand mon cœur s'est ouvert, Laetitia, qui est devenue ma femme, est venue s'installer. Elle est là depuis 23 ans dans mon cœur. Nous avons 4 enfants ensemble qui sont adorables de temps en temps. Ils grandissent, leurs soucis aussi. Et puis, je continue mes engagements, je continue à donner ma vie. Je me suis engagé dans l'église, à côté de mon boulot, à côté de mes engagements professionnels. J'ai fondé des mouvements pour les pères de famille. Je suis devenu diacre apostolique. Les gens me disent, mais comment tu fais ? Je dis, je ne sais pas, ne me posez pas la question. Moi, ma journée a fait 24 heures, la vôtre aussi. J'ai la grâce de travailler. Ma femme dit, je travaille même en dormant. Mais c'est du travail de bonheur. Ce que je fais, même dans mon boulot, hein, c'est de construire la paix. C'est là où il y a un problème, vous allez vous rendre compte Fouad se mêle pour essayer de régler le problème. Là où il y a un souci, Fouad se mêle pour essayer de réconcilier un couple, une famille, 2 entreprises, etc. Dans la paroisse, dans le quartier. Je dis, si je suis en paix, si je suis un homme heureux, et j'ai la joie et la fierté de dire « je suis un homme heureux », mais je ne veux pas vivre ce bonheur tout seul. À quoi ça sert de vivre seul ? C'est de l'égoïsme. Et encore, même pas. C'est de la tristesse. Si je suis en paix, ben je dois être en paix avec les autres. Si j'ai la joie, il faut que je la partage. Et ce partage vient par nos engagements, par ce qu'on fait. Et les jeunes, ah oh, moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde ? Ben oui, je peux faire. Parce que c'est vous l'avenir. C'est vous qui pouvez changer le monde. C'est vous qui pouvez faire la paix en Ukraine, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout, à Ustaritz, à Bayonne, à Biarritz, partout. Oui, parce que si je fais la paix avec mon camarade, avec mon voisin, avec ma famille, je participe à la construction de la paix dans le monde. Cette paix que Jésus est venu donner après sa résurrection. Quand il est arrivé chez les disciples, la première chose il leur a dit, « La paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Pas à la manière du monde. D'une autre manière. Pas avec les armes. La paix qui est obtenue par les armes, elle reste fragile, vulnérable. La paix qui est obtenue avec le cœur, avec la sincérité, avec le dévouement, elle est durable. C'est une paix durable. C'est une paix éternelle. Et la clé pour cette paix, c'est le pardon. C'est de quitter toutes les haines, toutes les rancunes. De regarder l'autre comme mon frère. Il a la même âme que j'ai. Nous avons une vie, c'est la même. Mais elle est partagée entre toi et moi et les autres. Nos frères et sœurs en humanité, c'est pas un vain mot comme ça. Ce sont des véritables images de Dieu sur terre. En tout cas, c'est nos miroirs. il y a une vie. Et nous devons protéger cette vie. Dès la conception jusqu'à la fin, par toutes les étapes, la vie, elle est sacrée. Et la vie, la mienne, comme celle des autres. Et donc, ce projet de paix dans lequel je me suis engagé, il n'est pas juste le mien. Il va devenir le vôtre, il va devenir mission pour chacun de nous, pour que le bonheur auquel nous aspirons tous puisse s'établir ici-là. Et que ce royaume de paix devienne un royaume d'amour et de bonheur. Et moi, du moment où je me suis engagé là-dedans, j'ai vu le bénéfice que ça peut avoir aussi envers les autres. Vous voyez, la personne qui avait posé la bombe était arrêtée, elle était en prison. C'était un jeune homme qui se droguait et on lui a donné de l'argent pour acheter de la drogue et en échange, il devait poser cette bombe devant chez moi. Il a été confondu par des photos d'un reporter, arrêté et en prison, il avait lu la Bible. Il a rencontré Jésus, il s'est converti. Il a demandé pardon. Et aujourd'hui, c'est un homme qui est engagé pour sauver des milliers de vies parce qu'il est devenu, après avoir fait 15 ans de prison et avoir eu des remises de peine, il est devenu directeur du plus grand centre des rééducations et des réhabilitations d'anciens drogués. Oui, j'aurais pu le tuer, j'aurais pu me venger, mais il n'aurait pas pu sauver des dizaines et des centaines de vies. Alors, évitons à chaque fois qu'on a l'occasion de répondre au mal par le mal, de le faire, parce que derrière, il y en a un qui saura transformer le mal en bien. Et je vous remercie.
Vous venez de suivre ce témoignage émouvant de Fouad Hassoun, enregistré au lycée Saint-Joseph à Ustaritz le 4 mai 2023. Fouad Hassoun a publié son témoignage aux éditions MAM dans un livre intitulé « J'ai pardonné ». Fouad Hassoun est également porteur du projet de l'association Phoenix, fondée en 2020 après les explosions du port de Beyrouth. Phoenix a apporté une aide d'urgence et humanitaire au Liban. Au fil du temps, cette association a soutenu des familles démunies dans la capitale ou dans les villages isolés du Liban. Ce projet Phoenix, semeur de paix, a été soutenu par les élèves du lycée Saint-Joseph d'Ustaritz lors du carême par une opération bol de riz. Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.le-phoenix.org.